écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. reste un long moment comme ça, ne sais pas combien de temps, et d'orage se dit, je suis qu'un lâche, lâche, même pas capable de me tuer. Il enrage, et cette rage se porte sur Margaret. Il aimerait la tuer, mais ne peut pas, il est trop amoureux d'elle. Alors furieux contre lui-même, Margaret, le monde entier, il s'en retourne. Le service d'hygiène a l'idée, c'est de poser des questions à des femmes qui prennent la crème. Parce qu'ils se sont aperçus que ce sont des femmes du monde qui prennent surtout cette crème. Et ces femmes n'ont rien. Les femmes leur expliquent comment elles appliquent leur crème, combien de fois par jour, etc. Et elles ajoutent par-dessus la crème un liquide pour que la peau soit plus fraîche. Et lorsqu'ils entendent les femmes de chambre, ils s'aperçoivent qu'elles mettent la crème mais ne mettent pas de liquide pour que la peau soit plus fraîche. Alors au laboratoire, on va étudier ceci. Et on se dit que le liquide que l'on met par-dessus le produit supprime peut-être le KCO qui est dans la pommade. Il faut savoir si ce produit supprime le KCO, même s'il ne se trouve pas mélangé à cette pommade. La grand-mère Jeanne, un après-midi, dans ses escaliers, tombe inanimée. Heureusement qu'une bonne est montée aux étages pour aller chercher des draps à changer. Vite, elle va prévenir tout le service. On la couche dans sa chambre en allant prévenir le médecin. Elle a repris ses esprits, mais elle sait maintenant qu'elle n'est plus qu'une vieille femme. Le docteur l'ausculte et lui dit qu'elle est très faible. Elle a le corps fatigué et qu'il lui faut beaucoup de tranquillité. Adrien est effondré. Il aime beaucoup la grand-mère. Il reste près d'elle. Jeanne a peur pour lui. Adrien lui dit, je t'aime de tout mon corps, grand-mère. C'est toi qui dois faire attention aux autres. La grand-mère lui dit, je tiens à ce que tu prennes la succession. C'est marqué sur mon testament. Je vais bientôt mourir parce que je suis vieille. Et que c'est normal. Tu ne dois pas avoir de peine pour moi. Ça fait partie de la vie. Adrien est très ému et pleure. Il ne veut pas la perdre. Elle lui dit encore, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Lui ému et pris de remords parce qu'il n'est pas ce qu'elle croit qu'il est et qu'il n'est qu'un imposteur. Elle lui dit, je quitte ce monde, heureuse, parce que je suis sûre de toi. Et lui, pris encore par plus de remords et de honte, alors il avoue qui il est et lui parle de tout. Bien entendu, il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il est réellement Adrien, mais qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il se souvient être Cyril. Et de la vie de Cyril. Ensuite, il lui demande pardon. La grand-mère l'a écouté avec horreur, parce qu'elle sent la sincérité dans ses yeux. Cette fois, elle a vraiment compris ce qu'il disait. Horrifiée, je s'entends mourir et jouer par les autres, cela est trop fort pour elle. D'un coup, ce visage se raidit. Ses yeux ont l'air horrifiés. Elle se soulève, retombe sur son oreiller. Adrien, terrifié, comprend qu'il a tué en disant ça. Il se met à crier. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Au secours, au secours. Grand-mère, non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu me laisses. Au secours, grand-mère. Non, je ne veux pas que tu me laisses. Pardonne-moi. J'aurais pas dû te dire ça. Oh, grand-mère. 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 Les domestiques ont entendu à court. On prévient le médecin de famille. Et les domestiques amènent le pauvre Adrien dans sa chambre. Qui reste frustré. Le médecin a constaté le décès de la grand-mère. Prévient les domestiques et Adrien. Adrien reste frustré dans sa chambre, ne bouge pas, et se dit qu'il a tué la personne qu'il aimait vraiment.
Encore votre bonté l'associe au cœur des anges. Par le Christ.
Trois jours plus tard, il y a l'enterrement. Adrien y assiste comme un fantôme.
Repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen.
Puis le notaire convoque Adrien et Albert, ouvre le testament. Ils ne sont pas surpris, c'est Adrien qui prendra la succession du groupe à sa majorité. Albert convoque le conseil du groupe pour annoncer que rien ne changera, sa femme est heureuse. Albert dit à sa femme, « Adrien continuera à vivre dans la maison de ma mère. » Sa femme est furieuse et lui dit, « Tu te garderas chez toi et puis là-bas, il sera bien gardé. » Adrien vit comme une âme en peine, va de pièce en pièce, se sent affreusement seul. Décide de continuer ses études par correspondance. Il est entouré de domestiques qui lui semblent être des gardiens. Albert va voir Adrien pour lui demander si tout va bien et va voir aussi les domestiques sans Adrien. Il leur dit, « Il doit rester ici, vous devez le surveiller parce qu'il est très fragile. » Il est fatigué. Il ne faut pas qu'il sorte. Je viendrai vous voir une fois par semaine. Il va voir Adrien avant de partir. Tu dois continuer à étudier ici. Tu as compris ? Adrien lui dit, oui. Il embrasse Adrien et le quitte. Avant de partir, il redit aux domestiques qu'il est interdit qu'ils sortent. Albert dit à sa femme, « Il mourra peut-être avant d'être major, et moi je resterai PDG. Mais avant, il y a cette enquête, et le groupe est menacé. » Adrien se sent prisonnier. Il est triste et pleure. Mais pour la mémoire de Jeanne, il veut bien travailler pour prendre la place qu'elle veut qu'il prenne. Alors, il se remet à travailler, toujours par correspondance. Il ne peut sortir. Personne ne peut le voir. Les journalistes qui ont su la succession se demandent pourquoi le petit est inaccessible. Et qu'on ne le croise nulle part. Certains journalistes surveillent le portail, mais on les rejette. Ils demandent pourquoi, on leur dit, le jeune homme est de santé fragile. Adrien voit ça de sa chambre. Les journaux se demandent si le petit-fils de Jean Forbini est malade ou séquestré. Certains voisins disent aux journalistes que le petit n'a pas le droit de sortir et qu'il a fait, lorsque sa grand-mère était vivante, de nombreuses fugues. Albert sait que la secrétaire de Jean, qui est toujours au service de la famille, qui est chez Adrien, appartient à David. David, durant ces temps de lucidité, comme il voit que Margaret a besoin de beaucoup d'argent, va voir Adrien pour lui dire qu'il ne doit pas l'oublier, qu'il est sa chose. Adrien, apeuré, lui dit « Je ne suis rien et je suis prisonnier de mon oncle. » David lui dit « Ne te fais pas de soucis pour ça. » Adrien se sent prisonnier entre Albert et David. Il aimerait fuir. Albert dit au chauffeur de l'aider à ce qu'il s'en aille et comme ça il pourrait lui arriver quelque chose. Alors mine de rien, le chauffeur fait comprendre à Adrien qu'il peut s'en aller. Ouvre le portail de la propriété et une voiture à côté du portail pour qu'il puisse s'en aller. Malheureusement, la secrétaire voit Adrien dehors. Elle prévient les domestiques d'aller le chercher, parce qu'il fait trop chaud pour qu'il puisse sortir. Adrien est pris par les domestiques. Il se défend comme il peut, mais ils sont trois hommes très forts. Il est obligé de les suivre, furieux et hurlant. Il est enfermé dans sa chambre. Il crie de rage. Pendant ce temps, la secrétaire prend la voiture qu'Adrien devait prendre. Elle la prend pour aller faire une course à Paris. Durant le trajet, la voiture ne répond plus à ses commandes. La secrétaire est paniquée. Elle ne sait ce qu'elle doit faire. La voiture ne répond plus. Elle roule à une vitesse folle. Effrayée, terrifiée que la voiture rate un tournant et va se jeter contre un panneau téléphonique. Elle a tout juste le temps de crier et que c'est le trou noir. Allez, bon, allons-y. La police fait une enquête rapide et se dit que c'est un accident. Adrien, qui apprend, comprend que la voiture était trafiquée et que c'est lui qui devait mourir. C'est le chauffeur qui a fait ça. Il a très peur et se sent prisonnier et risque d'être tué. Albert, qui a appris ça, est furieux. La police décide de surveiller. Les enquêtes sur les produits Forvigny ne montrent rien, pas de produits suspects dans la fabrication. Alors, la police décide de surveiller en cachette la fabrication et de voir, d'après les caméras de surveillance, la production. Parce que le gouvernement dit que si l'on ne trouve rien, la population et les partis de l'opposition vont dire que l'on ne veut pas que l'on trouve parce que le gouvernement serait de mèche avec les Forvigny et que ça risque d'être la révolution. Donc on visionne toutes les cassettes d'enregistrement de la production de ces fabrications. Une enquête se fait, une équipe regarde tout. Et à côté de chaque personne qui visionne, il y a un membre de la fabrication qui regarde aussi pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Pendant ce temps, la maladie, qui ne s'appelle plus la peste mais KOC, continue à faire des ravages. Depuis que l'on sait d'où vient la maladie, les gens s'impatientent et s'énervent. Ils manifestent, brisent des vitres et s'énervent. Ils brisent des vitres des magasins qui vendent des produits Forvigny, depuis qu'ils savent d'où vient la maladie. Ils ne supportent plus la mort, et puis la chaleur, la misère, le manque de tout. Les ennuis climatiques sont aussi causés par les riches, etc. David vit un enfer à cause de l'amour qu'il a pour une garce qui se moque de lui. Il aimerait se laisser tomber tout ça, mais n'ose pas, ne peut pas, le pauvre. Et puis, il lui dit, qu'il peut l'aider, et il lui faut de plus en plus d'argent, et se dit que s'il était quelqu'un, peut-être qu'elle laisserait le petit banquier. Dans sa folie, il ne voit qu'une solution, c'est qu'il prenne les rênes et donne à Margaret tout ce qu'elle veut. Qu'il prenne les rênes du groupe Forvigny grâce à Adrien. Puisqu'il ne peut se passer de Margaret, elle en profite pour lui demander des sommes énormes qu'il lui donne. Il lui donne même de ses biens de certains immeubles. Elle lui dit qu'elle l'aimera toujours. Elle lui demande tout ça parce que c'est son chaton. Malgré qu'il sache qu'elle profite de sa passion amoureuse dans sa fièvre, il lui donne tout ce qu'elle demande. Mais dans sa chambre, pris de tristesse et de lucidité, il se regarde dans la glace et se voit vieillir. Il a peur. Il a peur. En regardant les vidéos, on voit un homme sur une machine mettre quelque chose dans le produit. On montre la vidéo au responsable de fabrication en demandant ce que c'est. Il ne sait pas. Normalement, la personne n'a rien à mettre, juste à surveiller. Alors, on va voir à l'usine et l'on rencontre l'homme. C'est un homme d'à peu près 70 ans, peut-être même plus. Il travaille parce qu'il n'a pas de retraite. Il est petit, maigre, très maigre, cheveux blancs. On lui demande ce qu'il met dans le produit. Il dit, je ne mets rien, rien du tout. Alors on lui montre à la PJ la cassette. Le commissaire, un homme petit maigre, cheveux châtains, dans les 40 ans, costume gris, lui dit « Vous ne voulez pas me dire que vous n'avez rien mis dans ce produit alors que nous voyons le faire ?» L'homme ne répond pas. Alors la police va chez lui. Il vit seul dans un immeuble minable. En entrant chez lui, qui est un taudis presque vide et sombre, on trouve des bidons de KCO. Le commissaire lui demande d'où viennent ces produits. Il avoue, le KCO, il l'a volé dans un hangar de stockage de produits dangereux qui en fabriquait pour les insecticides et que l'on mettait à très petite dose dans les produits. C'est un ami gardien qui garde le hangar. Il lui a montré les produits qu'il gardait. Alors il a eu l'idée de prendre ce produit très dangereux pour l'homme, mais en très petite dose et mélangé à l'eau, ça ne peut pas nuire. Un jour, il est allé voir son ami et l'a enivré et a pris quelques bidons. Le commissaire lui demande « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Il lui répond « J'ai su que le mari de Jeanne, pendant la guerre, a dénoncé des juifs, dont des membres de ma famille. Je l'ai appris par ma sœur qui travaillait chez Jeanne comme domestique. Elle a entendu des choses et elle a vu des domestiques des Forvigny être pris par les Allemands parce que dénoncés comme juifs par le mari de Jeanne. Après la guerre, il n'a pas été jugé. Mais moi, je me suis juré de me venger. Alors, je me suis embauché à la fabrication Forvigny et je me suis dit que je pouvais bien trouver une solution pour me venger. Et j'ai trouvé, de nombreuses années après, être embauché. Le commissaire lui dit, et vous avez tué dans le monde entier des millions de personnes innocentes avec ce KCO qui se propage comme la peste et donne l'illusion de la peste. Malheureusement, ça ne se guérit pas pour le moment. Vous avez tué et tué encore des millions de personnes. Le vieil homme lui dit, les juifs aussi ont été innocents. On pense qu'il est inconscient de ce qu'il a fait. Un fou. On le mène chez un psychiatre qui le déclare suffisamment conscient pour être jugé. Parce que c'est un juif. Un grand avocat décide de le défendre. C'est un avocat qui défend les personnes indéfendables, comme les grands criminels, etc. Les journalistes, la population mondiale apprend la vérité, demande justice. Albert apprend ça et est soulagé. L'interdiction de fabrication et vente des produits Forvigny est levée. Sa femme lui dit, il va falloir se débarrasser du petit. Il va être majeur bientôt. La population, surtout de gauche, ne croit pas que l'ouvrier soit coupable. On dit que l'on fait porter ça à un pauvre type qui va payer à la place des vrais coupables, c'est-à-dire à des riches. Et que c'est impossible que la direction ne cherche pas ne savent pas ce qu'il faisait et qu'on lui avait demandé de le faire. Il avait reçu des ordres. Le gouvernement dit que pour arrêter toutes ces rumeurs, il faut trouver le médicament qui arrêtera l'épidémie. Et les gens passeront à un autre scandale. Le gouvernement ne croit pas Forvigny coupable et préfère que ce soit un vieux fou qui le soit. On fait des recherches maintenant que l'on sait que c'est le KCO. Le monde entier s'y met. C'est devenu la course qu'a le laboratoire qui se commercialisera. Le produit sera très riche. Et c'est l'Institut Pasteur qui trouve la solution. On crie victoire, mais les pays disent que leur produit ne vaut peut-être rien. On fabrique 24 heures sur 24 les vaccins. Et on vaccine à grande échelle la population dans les centres improvisés comme les stades, les écoles, mairies, chez les médecins, hôpitaux, etc. 24 heures sur 24. Il y a foule. Rambert est heureux avec Elisabeth, il vaccine. Après un mois, la maladie dégraisse. Il y a de moins en moins de morts. Mais les derniers morts créent des émeutes et certains disent que cela prouve que le vaccin ne vaut rien. Les pays étrangers font la même chose chez eux, on envoie par un voie entier des vaccins. Malheureusement, il y a toujours la chaleur. Là, on ne peut rien faire. Les gens dans le monde continuent malgré tout à mourir de sécheresse, de manque d'eau et de nourriture. Malgré tout, la vie reprend. Enfin, dans le monde, dans les pays occidentaux, on nettoie les villes, etc. Et on se remet au travail. Adrien, et en dehors de tout ça, il aimerait fuir et redevenir ce qu'il était, c'est-à-dire Cyril. Oui, Cyril. Albert, un soir, en sortant d'un restaurant, un homme s'approche de lui et lui donne un coup de couteau. Oh ! L'homme se sauve en courant. Albert s'effondre devant sa femme. Elle a vu l'inconnu se sauvait en courant. Elle se penche sur son mari et voit qu'il est inanimé et qu'il y a du sang à la poitrine. Elle se met à crier et hurler. Les gens courent dans tous les sens. C'est David qui est devenu fou. Il est rentré chez lui, dans son domicile pour se nettoyer. Il se dit que maintenant Adrien va être le maître de Forvigny et que Adrien c'est lui. Le matin, il retrouve Elisabeth qui lui dit « Je vais quitter la France avec mon amant. Je profite de te dire adieu maintenant, parce que je vais avoir beaucoup à faire pour préparer mon voyage. » Il est furieux et lui crie « Non, je ne veux pas !» Elle rit et lui dit « Mais tu es ridicule! Regarde-toi dans la glace. Tu ressembles à un pauvre type !» Il se souvient de tout ce qu'il a fait pour elle. Pris de rage, d'une force surhumaine, il fonce sur elle. Elle le voit horrifié, foncer sur elle. Ça a été trop vite. Elle n'a pas eu le temps de faire un geste ni de penser pour se défendre. Il l'a étranglée. Ah, ah, ah. parce qu'il a fait avoir tué la personne qu'il aime le plus au monde, il reste que pétrifié, assis à terre, devant le corps, durant toute la journée. Ne sachant que faire, et se disant que c'est faux, qu'il n'a pas fait ça. Puis, la nuit venue, alors il reprend ses esprits, se dit qu'il risque d'être pris par la police. Il se dit qu'elle devait partir à l'étranger. Alors s'il fait disparaître le corps, on croira qu'elle est partie. Oui, il a cette pensée de survie. Alors, très tard dans la nuit, il prend le corps l'a pris dans ses bras. Sort de l'appartement. Et descend les escaliers pour sortir de l'immeuble. La rue est déserte. Oui, la rue est déserte. Il va jusqu'à sa voiture, ouvre le coffre pour mettre le corps dans le coffre. Il va avec sa voiture jusqu'au bord de la Seine. Là aussi, la rue est déserte. Il est très tard, on n'y voit presque rien. Il sort Margaret du coffre de la voiture et va descendre jusqu'à la berge. Elle est lourde, mais elle a une force surhumaine pour pouvoir sauver sa vie. Une fois sur la berge, il jette le corps dans l'eau et se sauve en courant. Il va prendre sa voiture pour filer. Il a disparu dans la nuit. Le lendemain matin, on a retrouvé le corps de Margaret qui est remonté à la surface. La police fait une enquête et apprend que David Zibouman vivait chez elle, mais on ne le retrouve pas. Le temps passe. Adrien est major et le notaire le convoque et convoque le conseil d'administration. Il lit sa main et dit qu'Adrien Forvigny hérite pour présider le conseil d'administration. Mais comme il n'est pas encore formé, il sera épaulé par le conseil entier. Adrien, malgré lui, devient le jeune homme le plus riche du monde. Il accepte un souvenir de la grand-mère, mais il a du remords parce qu'il se dit qu'il n'est qu'un imposteur. Il croit qu'il est un imposteur parce qu'il n'est pas Adrien. Mais en réalité, il est Adrien. Alors une fois que tout le monde sait qu'Adrien est le jeune célibataire le plus riche de France, on lui fait des courbettes et le personnel de la maison est remplacé. Adrien n'entend plus parler de David, il a appris qu'il avait disparu. Il se sent soulagé et se dit qu'il ne le verra sûrement plus. Tout rentre dans l'ordre. Adrien se sent plus libre et décide d'apprendre à conduire et finir ses études. La femme de son oncle, Denise, se retire en Bourgogne dans le château de son enfance. Adrien se dit qu'il est un imposteur, mais il est seul à le savoir et il doit accepter son rôle et cacher qui il est vraiment. Un jour, Albert est convoqué dans la maison d'Adrien pour un domestique malade. En rentrant devant la maison, il voit une voiture qui sort de la propriété. Et à l'arrière de la voiture, il reconnaît le jeune homme qu'il a rencontré la fameuse nuit. Adrien ne le voit pas. Rambert se dit, est-ce que ce peut être celui que j'ai rencontré cette nuit-là? Non, ce ne peut être lui. Il doit lui ressembler. Ce n'est pas celui qui avait tué la personne dans le parking. Mais il a mal, parce qu'il est attiré par sa beauté qui ressemble à celui qu'il a rencontré. Mais se dit, qui sait, c'est peut-être lui, et ça lui donne de l'espoir. J'ai fini d'écrire cette histoire le 8 février 2011 à 16h48. J'ai commencé d'enregistrer au kilomètre le 25 septembre 2011 à 8h. J'ai fini l'enregistrement au kilomètre le 29 septembre à 12h. Cette histoire est déposée à la Société des auteurs. Si on la diffuse sur quelque support que ce soit, je ne veux pas que l'on change quoi que ce soit. Bien entendu, c'est une histoire de fiction. Les personnages et les idées de ces personnages sont de pure invention et ne sont ni des idées à moi, ni de mes habitudes. La peste symbolise la pourriture de l'époque. Voilà. C'est peut-être la dernière histoire, et c'est sûrement la dernière histoire que j'écris, parce que j'ai décidé d'en finir. J'en ai assez de cette vie, de ce monde qui ne me convient pas. On m'a tout pris. Malgré tous les efforts que j'ai faits durant toute ma vie, On a tout fait pour me prendre. Tout me prendre. Je me meurs, non pas de dépression ou maladie, mais simplement comme ça. Je le fais consciemment et tranquillement, comme une chose normale. Je sais, à 20 ans, c'est très beau de se laisser mourir. À plus de 60, personne ne trouve ça intéressant. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.